Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis le mois de septembre, le tourisme est quasiment au point mort sur toute la rive sud et est de la Méditerranée. C'est le constat dressé il y a quelques semaines à Marseille lors de rencontres organisées par l'association Euromed IHEDN dans le cadre de la Semaine économique de la Méditerranée. Parmi les intervenants, un professionnel spécialisé dans le tourisme culturel nous dira qu'une mauvaise interprétation de la situation réelle dans beaucoup de pays est à l'origine de cette situation. Pour sa part, un ancien policier reconverti dans la sécurité nous expliquera quoi faire face aux problèmes d'insécurité, que l'on soit un touriste ou un industriel, et surtout nous indiquera où il est encore possible de faire du tourisme aujourd'hui dans cette région chargée d'histoire. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orion Hebdo sur RFI.
C'est un constat particulièrement alarmant. Le tourisme est en panne sur les rives sud et est de la Méditerranée. Entre printemps arabe et menaces terroristes de l'organisation État islamique, la chute est spectaculaire. Michel Olivier dirige Intermed, premier voyagiste culturel français. Le bilan qu'il dresse est alarmant, même s'il affirme que l'on peut encore voyager vers Amman, Marrakech ou Tunis.
Aujourd'hui, nos destinations de prédilection dans cette région-là, région qui a représenté dans le passé plus de 30% de notre activité, qui aujourd'hui représente moins de 15, entre 10 et 15, parmi lesquelles le Maroc constitue encore une destination importante et très intéressante, la Jordanie, l'Égypte, malheureusement, on ne peut pas vraiment le mettre sur le même pied, bien qu'un frétiment de reprise soit visible. Ce sont en fait aujourd'hui les destinations essentielles auxquelles on peut ajouter la Tunisie dans une certaine mesure. Ceci est vrai sur l'ensemble de l'année 2014, avec des tout petits chiffres, bien que depuis l'engagement de la France contre Daesh et la communication qui a été faite autour de mesures de prudence pour les voyageurs français, la situation soit, depuis fin septembre, beaucoup plus délicate et beaucoup plus difficile.
Pourtant, dans toute cette région, il y a une richesse culturelle et archéologique absolument incroyable.
C'est la région sur laquelle on est né, nous, voyagistes culturels, pour cette région. Autour du bassin méditerranéen, et en particulier sur les rives est et sur les rives sud, on y trouve vraiment notre origine culturelle. Des sites antiques, à la fois liés à la Grèce, liés à l'Empire romain, liés aussi à la naissance du monothéisme, tout est là. Toute notre origine culturelle est là. Aujourd'hui, l'envie, la demande, l'envie d'y aller est extrêmement présente, elle est palpable. Ne pas y aller est une frustration quotidienne pour les clients.
Et du point de vue des pays qui pourraient accueillir tous ces touristes, tous ces clients, c'est aussi une frustration, j'imagine, notamment sur le plan financier.
Ah, là, c'est même au-delà de la frustration. Le tourisme pour un pays comme la Tunisie ou le Maroc représente quelque chose, c'est un ordre de grandeur, mais quelque chose comme 7% du PIB, on parle d'un demi-million d'emplois. En Égypte, on parle plutôt de 12% du PIB, on parle de plus de 2 millions d'emplois. Ce sont des drames derrière, des drames sociaux. Et puis, il y a tout le halo symbolique autour de cette idée que les voyageurs européens n'y vont plus par peur. Enfin, il y a quelque chose de dramatique dans cette idée.
Et faut-il avoir peur aujourd'hui ?
Il faut être prudent et ne pas avoir peur. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous regardez en détail les cartes qui sont présentes dans le site du Quai d'Orsay, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays où l'on peut parfaitement aller. Et vous voyez que dans certains pays, il y a des régions où on peut aller et d'autres régions où on ne peut pas. Le danger, c'est la globalisation et la confusion. Le danger, c'est de croire ou de penser ou d'imaginer ou d'entendre que toute la région est une région dangereuse. C'est absolument faux. Il suffit de regarder les choses en détail et on voit qu'une bonne moitié de la région est en fait parfaitement visitable, dans des conditions de sécurité parfaites. Il faut simplement le faire avec prudence, en connaissance de cause, avec les bons prestataires locaux et en respectant scrupuleusement les recommandations de sécurité qui viennent de notre ministère, le ministère français.
Il y a néanmoins des pays à éviter, évidemment.
Il y a des pays à éviter. Et en particulier, dans certains pays, il y a des régions entières à éviter. En Égypte, par exemple, il est hors de question d'aller dans le Sinaï. Aujourd'hui, c'est objectivement dangereux d'aller dans le Sinaï. Il y a également des régions, les régions des oasis, où il est dangereux d'y aller. Mais autour du Nil, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il est tout à fait possible d'y aller. Et pourtant, il y a, depuis fin septembre en particulier, fin septembre 2014, une perception globalisée et confuse qui donne la perception que toute la région est devenue dangereuse, ce qui est vraiment faux.
Une dernière question, Michel Olivier. Est-ce que le tourisme dans ces régions est compromis à court et à moyen terme ?
En fait, il y a deux choses à regarder, la situation locale et la perception de cette situation en Europe. La réalité locale, objective, n'est absolument pas à moyen terme dévastatrice. Pas du tout. Il y aura des zones où on n'ira pas pendant un certain nombre d'années, et il y aura des zones, et il y a des zones où on peut y aller, où on va pouvoir continuer à y aller. Les choses ne sont pas si sombres qu'on veut bien le dire ou qu'on veut bien le croire. Le principal danger est précisément dans une espèce de regard globalisant et complètement confus qui jette toute la région dans une même logique. Et c'est ça la difficulté. À moyen terme, le gros enjeu est moins dans la réalité objective, qui est ce qu'elle est, qui va évoluer, mais avec laquelle on peut composer. Le vrai enjeu, c'est la façon dont elle est perçue, présentée à l'opinion, en particulier par la presse, et elle doit l'être de façon très rationalisée, très analytique, en prenant en compte chaque cas comme un cas spécifique, en présentant cela comme une analyse politique, à partir de laquelle on peut décider, on y va ou on n'y va pas. Et on peut s'appuyer sur cela, sur des analyses extrêmement fines et bien faites du ministère français des Affaires étrangères. Le danger, c'est la globalisation confusante. Et ce message-là, malheureusement, globalisant et confus, a été diffusé, je dois bien le dire, avec un immense regret, en particulier suite aux événements dramatiques liés à la mort d'Hervé Gourdel, fin septembre, en Algérie.
Pourtant, les professionnels de la sécurité s'activent pour rendre les séjours plus sûrs sur la rive sud de la Méditerranée. Louis Caprioli est un ancien sous-directeur de la DST, le FBI français. Consultant pour une grande agence internationale de sécurité, il conseille de grandes entreprises qui s'installent dans des pays dits à risque en leur disant ce qu'ils doivent faire impérativement.
La première chose à faire, c'est de sensibiliser les personnels aux risques qu'ils peuvent encourir. Pour une raison très simple, il faut qu'ils aient de l'information, qu'ils connaissent exactement la situation dans le pays où ils vont déployer leurs activités. Et ensuite, on va développer des audits de sécurité, des audits d'appartements, les audits de trajet, les audits des installations. On va aussi mettre en place des plans de sûreté, des plans de crise, des plans d'évacuation, et on va faire en sorte que tous ces plans soient réalisables. C'est-à-dire qu'on ait des moyens techniques pour évacuer les gens par la route, par les airs, ainsi de suite. Donc on a tout un process qui est mis en place pour assurer la protection à la fois de l'expatrié, ça peut être de sa famille et ça peut être de ses enfants. Alors tout ça, ça a un coût, et c'est vrai que les entreprises, compte tenu de leurs responsabilités à la fois civiles, morales et pénales, s'engagent de plus en plus pour assurer la protection, la pérennité de leurs installations.
Alors, est-ce qu'on peut protéger des usines, par exemple en Afghanistan, au Nigeria ou en Égypte ?
Alors, c'est vrai qu'en Afghanistan, la situation est difficile, mais je veux dire qu'en dehors de cette zone de guerre comme la Syrie, comme l'Irak, on peut protéger toutes les entreprises, et en particulier au Nigeria. Au Nigeria, nous travaillons et nous protégeons des entreprises qui s'y développent. C'est un coût. Le problème, si vous voulez, de la sûreté, c'est que ça représente, c'est un centre de coût. Et il est évident que dans un monde où les bénéfices sont en train de fondre, les chefs d'entreprise et les directeurs des achats n'ont qu'une idée, c'est de diminuer les centres de coûts. Et un des centres de coûts, c'est la sûreté. Pour autant, on ne peut pas se passer de la sûreté. Et donc, il faut à tout prix que la sûreté soit de qualité et à des prix défiant notre concurrence. Donc, nous avons une concurrence effrénée avec les anglo-saxons notamment.
Alors, concernant le tourisme, là, ça semble quand même un peu plus difficile. On l'a entendu avec l'intervention de Michel Olivier, qui est un professionnel du tourisme, qui dit que dans certains pays, le tourisme a chuté de 100% dans cette région du sud et du sud-est de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger et pour remédier à cette situation ?
Compte tenu de la situation qui existe maintenant, je ne crois pas que des mesures de protection du tourisme vont apporter une solution. Simplement, lorsque nous sommes allés dans des pays comme touristiques, comme le Maroc, la Tunisie, nous avons dit qu'il fallait faire de l'ingénierie sûreté pour que la sûreté ce soit une valeur ajoutée. Il fallait à tout prix, si vous voulez, alors soit vous avez le principe du bunkerisation, c'est-à-dire que vous avez un centre touristique qui va être fermé, vous allez avoir des contrôles d'accès. Il y a des gens qui acceptent de passer des vacances dans des conditions pareilles, mais dans beaucoup de pays, en particulier je prends le Maroc, il était hors de question qu'on puisse bunkériser. Et donc là, il y a une sécurité qui est beaucoup plus soft, qui est ouverte, mais il faut quand même aussi un engagement financier, puisqu'il faut des caméras de télévision, il faut des services de sécurité, il faut des plans de sûreté. L'industrie touristique, compte tenu de ses faibles marges financières qu'elle dégage, elle a des difficultés à mettre en place ses moyens de sécurité. Alors les moyens de sécurité dans les hôtels, ça pose pas de problème parce que ce sont des grandes chaînes, et donc ils vont sécuriser leur personnel avec des contrôles d'accès, avec des personnels pour assurer la sécurité. J'allais dire que quand vous avez pas de moyens suffisants, vous faites le minimum.
Et les États, quel est leur rôle dans tout ça?
Alors les États, si vous voulez, j'allais dire, ce sont les services de sécurité pour empêcher le terrorisme et pour assurer. Vous avez un pays qui, j'allais dire, bouillonne en permanence pendant très longtemps, et c'était le Maroc. Et bien le Maroc, avec les moyens de sécurité, a neutralisé de nombreux réseaux terroristes, et pendant très longtemps, le Maroc n'a pas souffert du terrorisme, hein, alors qu'il neutralisait des réseaux en permanence. Ce qui était, c'est vrai, on a eu les attentats de 2011, on a eu les attentats de 2003, il y a eu une chute du tourisme, mais je crois que ce qui fait du tort au Maroc, c'est l'affaire de notre compatriote qui a été enlevé et assassiné en Algérie, et puis c'est cette décision des affaires étrangères dans un premier temps de désigner 40 pays. Et je dois dire que c'est vrai que les touristes ont hésité à aller au Maroc parce qu'il y a eu cette décision du ministère des Affaires étrangères. Les États, je crois que c'est de mettre les services pour empêcher les attentats, pour neutraliser le plus possible. Et dès lors qu'on n'a pas d'attentat dans un pays, ben les gens se sentent rassurés.
Vous qui êtes un spécialiste de la sécurité, vous diriez que dans certains pays du sud de la Méditerranée, on peut faire du tourisme aujourd'hui, avec prudence, mais on peut?
Oui, moi je pense que si vous voulez, au Maroc, on peut faire du tourisme, qu'en Tunisie aussi, on peut faire du tourisme, parce que ben, l'État s'est reconstitué, hein, que les services de sécurité. Alors c'est vrai que quand vous entendez parler que le monde chahabille encore des terroristes, parfois ça peut inquiéter les gens, mais je crois qu'on peut faire du tourisme.
En Égypte et en Israël, on peut?
Alors en Israël, ils mettent tellement de moyens à disposition. Pour l'instant, quand vous regardez l'Égypte, c'est un pays qui est menacé quoi sur le Sinaï, sur le Caire, mais je crois que les sites touristiques, Louxor, tout ça, pour l'instant ne sont pas atteints. Effectivement, on pourrait faire du tourisme.
Louis Caprioli, conseiller du président du groupe de sécurité Géos. Et avant lui, Michel Olivier, président du voyagiste culturel Intermed. Deux intervenants lors de rencontres organisées par l'association Euromed IHDN et son président Jean-François Coustillet. Le groupe Tinariwen est mondialement renommé depuis 30 ans. Né entre le sud algérien et le nord Mali, sa musique, le Assouf, fait la synthèse entre le blues, le rock et la musique traditionnelle touareg. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, le projet palestinien devant le Conseil de sécurité de l'ONU fait la une des journaux panarabes.
Oui, et le projet qui a été présenté par la Jordanie au Conseil de sécurité vise en fait à mettre fin à l'occupation israélienne avant 2017, à résoudre le problème des réfugiés et de faire de Jérusalem la capitale commune pour Israël et la Palestine. Alors selon la presse panarabe, la porte a été laissée entrouverte pour des modifications et les journaux mentionnent notamment des propositions françaises de compromis. Alors, toutefois, la plupart des journaux ne se font pas d'illusions. Les États-Unis utiliseront le droit de veto. Mais certains éditorialistes rêvent sans trop de conviction de voir un revirement américain comme celui qui a eu lieu avec Cuba. Des journaux qui soulignent le fossé grandissant entre Washington et de plus en plus de pays européens dans les parlements où le gouvernement a reconnu la Palestine.
Alors la presse israélienne, Michel Paul, fait à l'inverse état d'une mauvaise semaine au niveau diplomatique pour Israël. L'Europe a adopté plusieurs motions pour palestiniennes, le Hamas a été sorti de la liste des organisations terroristes et les Palestiniens présentent donc leur propre résolution aux Nations Unies.
Oui, le terme que l'on a retrouvé le plus souvent cette semaine dans la presse sur ce sujet, c'est « tsunami politique ». Les journaux soulignent le courroux israélien, celui du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui affirme que les Européens n'ont rien appris du massacre de 6 millions de Juifs sur leur terre pendant la période de la Shoah, et aussi celui du chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman, qui affirme que ces décisions ne vont pas améliorer les relations avec les Palestiniens. Alors parmi les titres qu'on a retrouvés dans les quotidiens, le camouflet de l'Europe, l'Europe dit oui à la Palestine et aussi l'Europe contre Israël, les Palestiniens donc se tournent vers le Conseil de sécurité, mais Haaretz souligne que les Américains n'apporteront pas leur soutien à la résolution pro-palestinienne. Et un éditorialiste estime que la proposition palestinienne est peut-être une occasion qu'Israël devrait saisir. Eric, il faut retenir que plusieurs commentateurs estiment qu'il faut replacer la réaction israélienne dans le contexte de la campagne électorale israélienne.
Et précisément, Michel, il est toujours beaucoup question de ces élections.
3 mois tout juste avant les élections, la campagne bat son plein et les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. Les candidats sont dépeints comme les beignets de la fête de Hanouka qui est célébrée en ce moment ou comme les bras du chandelier utilisé pour cette fête des Lumières. 89% des Israéliens, selon un sondage Mariv, proclament qu'ils se rendront aux urnes le 17 mars. Ce serait un record. 58% des personnes interrogées ne veulent plus de Netanyahou comme Premier ministre. Numéro 2 du classement, le chef de file des travaillistes, Yitzhak Herzog, plébiscité par 28% des Israéliens pour occuper les fonctions de Premier ministre.
Alexandre, les violences et la confusion qui règnent en Syrie font l'objet d'une large couverture de la presse.
Oui, et les journaux rapportent les combats entre le front al-Nusra et le régime Bachar el-Assad aux abords de Damas, mais aussi les combats entre le même front al-Nusra et une autre faction islamiste de la rébellion. Et la presse rapporte par ailleurs les tentatives d'union de diverses factions de la rébellion au sein de l'armée libre syrienne, mais les journaux indiquent aussi qu'un des chefs principaux au niveau militaire de cette armée a été exécuté par l'organisation État islamique. Ils critiquent aussi les déclarations des responsables militaires américains selon lesquelles il faudra 3 ans pour éradiquer l'organisation État islamique. Il ne restera pratiquement plus rien de la Syrie et l'Irak aura explosé en 3 entités, sunnites, chiites et kurdes, estime un éditorialiste.
Et puis Alexandre, l'Égypte détient le triste record régional des morts dans les accidents de la route selon les journaux du Caire.
Oui, 13 000 morts dans 133 000 accidents en 2013 selon une responsable du ministère de la Santé qui est citée par le journal Al-Shourouk. Il faut rajouter 245 000 blessés dont beaucoup sont devenus invalides ou gardent des séquelles plus ou moins lourdes. La principale cause de ce carnage est humaine. Des analyses effectuées le mois dernier ont démontré qu'un bon tiers des conducteurs étaient sous l'emprise de drogue ou de produits dopants. Il faut ajouter les excès de vitesse, les slaloms des poids lourds et l'état des routes. Donc, si j'en crois le compteur de ma vieille Mercedes qui a dépassé les 400 000 km, je suis un survivant.
Michel Paul, on parle à nouveau d'Ehud Olmert.
Oui, c'est un nouvel épisode de la saga du procès de l'ancien chef du gouvernement israélien. Les journaux reproduisent les enregistrements dans lesquels Ehud Olmert propose 10 000 dollars par mois à son ancienne assistante si elle garde le mutisme et va en prison. Shula Zaken a préféré coopérer avec les enquêteurs et le jour semble se rapprocher où Olmert se retrouvera derrière les barreaux pour corruption et abus de pouvoir.
Et puis les Israéliens, Michel, se passionnent pour une affaire qui n'a rien à voir avec la politique.
Oui, c'est une sombre affaire qui a pour protagoniste un chef de bataillon d'une brigade considérée comme l'une des plus prestigieuses de l'armée israélienne, la brigade Givati. Alors il y a un peu de tout, harcèlement sexuel, corruption et j'en passe. C'est le sujet qui fait la une de la presse ici ce week-end.
Et pour conclure, Michel Paul, quelle est votre photo du jour ?
Eh bien, ce sont les facsimilés des unes du quotidien Yediot Acharodot au fil des ans. Le quotidien fête cette semaine 75 ans d'existence et consacre un supplément spécial à cet événement.
Eh bien, merci Michel, merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette émission, émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.
Géopolitique, le débat.